Des milliers de partisans du gouvernement éthiopien se sont rassemblés ce jeudi sur la place Meskel à Addis Abeba pour célébrer l'achèvement du deuxième remplissage du barrage de la Renaissance. L'édifice qui fait l'objet de tensions entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, mais que de nombreux Éthiopiens soutiennent avec ferveur. Et pour l'Éthiopie, ce méga barrage est nécessaire pour ses infrastructures énergétiques. Mais le Soudan et l'Égypte redoutent de leur côté un appauvrissement de leurs ressources hydrauliques, des allégations qui sont pourtant rejetées par le gouvernement éthiopien et plusieurs partenaires internationaux. La demande de transfert du dossier donc au Conseil de sécurité de l'ONU a pourtant été un échec et rejetée par le Conseil, affirmant que le dossier devait être géré avec l'Union africaine et pas autrement, en d'autres termes, de manière intracontinentale. Le gouvernement éthiopien a l'appui de la population et c'est ce qui est le plus important à leurs yeux, en résistant donc aux pressions et aux intimidations face à ce deuxième remplissage du barrage de la Renaissance. Nous, Éthiopiens, avons placé la vérité de notre côté et nous sommes positionnés en vainqueurs devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous ne sommes pas satisfaits un seul instant de nos petites victoires. Nous avons serré les dents et travaillé jour et nuit pour achever le deuxième remplissage du grand barrage et par conséquent, je tiens à féliciter les Éthiopiens pour leurs efforts et cette récompense méritée, a dit la maire d'Addis Abeba. Les participants au rassemblement ont également manifesté leur soutien à l'armée éthiopienne tout en dénonçant les exactions des rebelles terroristes qui se trouvent dans la région du Tigré. La maire d'Addis Abeba a accusé les rebelles de travailler avec les médias internationaux pour, a-t-elle dit, diffamer donc l'armée éthiopienne. Et comme dit précédemment, dans le Zoom Afrique, les médias occidentaux montrent de plus en plus leur partialité dans les affaires internes de l'Afrique. Et ils ont montré ouvertement qu'ils sont plutôt les porte-voix des rebelles, des terroristes, des séparatistes, en bref, tous ceux qui sont pour une déstabilisation complète des pays et des régions sur le continent. Cette manifestation montre clairement que la population éthiopienne ne croit plus aux médias et même à travers l'Afrique, l'Occident et leurs médias n'ont plus aucune crédibilité sur le continent. Les assassinats déjoués se succèdent en Afrique après la tentative récemment d'assassinat du président de transition malien Assimi Goïta. C'est maintenant au tour du président malgache André Rajoelina. Les autorités malgaches ont arrêté plusieurs personnes, dont deux Français qu'elles soupçonnent d'avoir projeté d'assassiner le président André Rajoelina, a indiqué jeudi la procureure générale de Madagascar. Le parquet malgache a annoncé ce jeudi avoir déjoué donc une tentative d'assassinat du président de la République. Et plusieurs individus ont été arrêtés. Plusieurs ressortissants étrangers et malgaches ont été interpellés mardi dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État, a déclaré mercredi soir à la presse la procureure générale. Parmi ces personnes arrêtées figurent deux Français, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques. Selon les preuves matérielles en notre possession, ces individus ont échafaudé donc un plan d'élimination et de neutralisation des diverses personnalités malgaches, dont le chef de l'État, a ajouté la procureure, sans autre précision ni sur ses preuves ni sur les circonstances de ces arrestations. À ce stade de l'enquête qui se poursuit, le parquet général assure que toute la lumière sera faite sur cette affaire, a-t-elle poursuivi. L'agence malgache Taratra, sous tutelle du ministère de la Communication, fait savoir que les deux Français arrêtés, Philippe et Paul, seraient d'anciens officiers à la retraite. Lors de la célébration de la fête de l'indépendance de Madagascar, le 26 juin, la gendarmerie avait déjà annoncé avoir déjoué une tentative d'assassinat, celle du secrétariat d'État, donc chargé de la gendarmerie, le général Richard Ravalo Manama, le bras droit du président. Le président malgache est dans le collimateur depuis un certain temps déjà, surtout depuis qu'il mène son combat pour récupérer ce qui est le droit donc de son pays, à savoir la souveraineté des îles éparses, mais également parce que le ministre de la Défense malgache a rencontré son homologue iranien en Inde pour une coopération militaire navale et un droit d'accès pour les navires de guerre iraniens dans les eaux territoriales malgaches, ce qui a donné donc la possibilité à l'Iran donc et à la Russie d'effectuer un exercice militaire d'envergure dans cette région. De plus, cela a également encouragé le président mozambicain, Philippe Nyusi, à continuer à tenir tête aux pressions de l'Occident qui voulait absolument que le président mozambicain donc accepte un déploiement massif de soldats occidentaux sur son territoire. La France voulait garder le monopole de toute la région, mais ce fut un échec. Les tentatives d'assassinat des chefs d'État africains se succèdent et la France est toujours mêlée de près ou de loin à ces affaires. Les autorités centrafricaines avaient annoncé donc l'arrestation d'un ressortissant français en possession d'une quantité importante d'armes de guerre. Présenté comme un espion ou même un mercenaire, l'agent de sécurité est actuellement en garde à vue. Paris a dénoncé une instrumentalisation de l'affaire et pointe du doigt le rôle de la Russie sans la nommer. Et pour le Mali, la France pourrait pointer également du doigt la Russie. Et maintenant, pour Madagascar également. Cette déresponsabilisation de l'État français montre que d'autres chefs d'État sont également dans le collimateur. Les tentatives sont actuellement déjouées, mais elles ne s'arrêteront pas là, car elles visent principalement les chefs d'État qui ont tourné le dos à l'Occident. La France et les États-Unis se sont alliés pour lancer non seulement des bombardements des populations en Afrique, des massacres de masse à travers les groupes terroristes à leur solde, mais également des assassinats ciblés de représentants des gouvernements et des chefs d'État sur le continent africain. Certains experts appellent même ça un génocide à grande échelle qui est en train de se produire sur tout le continent africain. Certes, les chefs d'État africains et les populations doivent se tenir sur leur garde, car visiblement le bloc de la résistance africaine a maintenant son poids dans la politique internationale et ce n'est qu'un début.
Bonjour Madame Oudjé, bonjour aux millions de téléspectateurs de Presse TV, la chaîne publique iranienne de langue française. C'est toujours avec le même plaisir que je veux me faire l'obligation, de vous apporter ma modeste analyse sur les thématiques que vous venez d'évoquer. D'emblée, je voudrais déjà vous rappeler que celui qui se fait passer pour un général ne l'a jamais été, n'a jamais fait l'armée. C'est simplement un ancien activiste qui un ancien étudiant activiste qui s'est expatrié et a gardé son sobriquet de général. Donc, ça n'a rien à voir avec l'armée. Il n'y a aucune relation entre ces déclarations et une déclaration d'un officier supérieur de l'armée camerounaise. Ça, c'est important. Et pour revenir dessus, je veux aussi insister que sa déclaration est une déclaration tout simplement fantaisiste et qui s'inscrit dans la même démarche que ces anarchistes qui battent le macadam du côté de Genève en Suisse pour perturber le séjour du président camerounais. Voilà, Madame Oudjé, ça c'était important de le rappeler. Mais maintenant, je voudrais que vous et vos téléspectateurs compreniez une chose qui est extrêmement importante par rapport à cette actualité de Genève. Vous savez, la création des États africains issus de la colonisation n'est autre qu'un ramassis de tribus, des fois n'ayant strictement rien en commun, c'est-à-dire rien sur le plan culturel, n'ayant rien en commun sur le plan culturel, mais obligés de partager les mêmes espaces territoriaux ou alors le même pays au gré des intérêts du colon. Du colon, c'est de ça qu'il s'agit déjà, c'est un détail extrêmement important. Ça signifie qu'on a créé artificiellement ou mécaniquement des États à travers lesquels ceux qui y vivent, les populations qui y vivent, n'ont véritablement pas d'attache culturelle, n'ont véritablement rien en commun et sont même à la limite antagonistes. Selon le cas du Cameroun, qui compte, rassurez-vous, près de 250 ethnies. Je dis bien 250 ethnies, des fois aux us et coutumes totalement antagonistes. Contrairement donc aux pays comme l'Iran, la Chine ou bien d'autres, dont les peuples partagent les mêmes référents matériels et immatériels depuis des centenaires. Vous comprenez qu'en Afrique et singulièrement au Cameroun, ce n'est pas du tout le cas. Peut-être qu'on peut retrouver dans quelques pays africains cette ressemblance avec vos pays, avec des pays comme l'Iran, où on retrouve les Perses, les Iraniens sont des Perses, et les Perses, c'est une civilisation très ancienne qui, en fait, partage le même héritage culturel, contrairement à un pays comme le Cameroun, qui compte 250 plus de 250 de groupes ethniques. Et comme je le disais tantôt, généralement aux us et coutumes antagonistes. Lorsque vous avez évacué cet aspect sociologique, vous allez comprendre que les médias mainstream, qui ne maîtrisent pas toujours ces détails, versent simplement dans des commentaires et analyses inspirés des modèles qui ne sont pas forcément adaptés aux réalités africaines. C'est le cas de ce qui se passe. Généralement, ces médias le font soit par ignorance, soit volontairement. Or, au Cameroun, ces cultures, comme je le disais tantôt, propres à toutes ces ethnies, sont généralement antagonistes et ont des conséquences fâcheuses, même sur la cohésion sociale, malgré le calme apparent. Le calme apparent ne signifie pas que tout le monde, que tous les groupes qui vivent au Cameroun partagent les mêmes cultures, au contraire. Mais bon, il y en a qui sont moins expansifs, certains peuples sont moins expansifs que les autres, pendant que d'autres sont conservateurs et d'autres sont hospitaliers. Donc il y a cet aspect-là qu'il faut comprendre. Maintenant, l'activisme observé de la diaspora, d'une certaine diaspora camerounaise à Genève, relève tout simplement, à mon avis, d'un choc de culture, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de ces antagonismes culturels propres à chaque ethnie. Il arrive même des fois que ce qui est sacré pour certains groupes sociologiques soit plutôt une abomination pour d'autres. Vous comprenez que le tableau n'est pas du tout facile à interpréter. Or, le président Paul Biya, qui fait l'objet aujourd'hui de toutes ces attaques du côté de Genève, est d'origine culturelle fambéti des régions du centre, sud et est, donc des régions qui représentent pratiquement je peux dire, le tiers de la superficie du Cameroun. Et il fait l'objet justement des ressortissants d'un peuple qu'on appelle chez nous le peuple Bamileke de la région de l'Ouest Cameroun. Donc, selon mes enquêtes, les motivations de ces activistes sont simplement justifiées par leur interdiction de séjour au Cameroun conformément au texte en vigueur du HCR en matière de prise en charge des réfugiés politiques. Comme vous le savez, Madame Ogier, lorsque vous entrez dans un pays européen comme réfugié, il vous interdit de rentrer dans votre pays tant que le régime n'a pas changé. Or, vous conviendrez avec moi que Biya est d'une longévité exceptionnelle au pouvoir, et pourtant, il a été présenté par ses activistes comme étant l'un des pires dictateurs de la Terre. Et aujourd'hui, sa longévité leur pose un problème, et surtout un problème d'attache culturelle. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un peuple qui est trop attaché à sa culture patrimoniale à travers le culte des crânes. Et le culte des crânes est un élément fédérateur extrêmement important pour le peuple Bamileke. Et c'est cet élément fédérateur qui lui permet d'entretenir et de se reconnaître à travers, c'est même un élément fédérateur en réalité. Or, être privé de cet élément peut rendre hystérique certains et les pousser justement à afficher le comportement que vous avez, que nous constatons. Or, les médias occidentaux ou alors les journalistes occidentaux n'iront jamais fouiller pour comprendre ce comportement, et pourtant c'est de là que vient le problème, au-delà de toutes les interprétations et des autres interprétations que l'on pourrait avoir. Donc vous comprenez que depuis les années 1990, lorsque les programmes d'ajustement structurel se sont abattus sur les pays africains, il y a beaucoup d'Africains qui ont choisi d'autres destinations pour des raisons essentiellement économiques. Mais sur place, ces raisons économiques sont devenues davantage, ont été transformées en raisons politiques. Et généralement, c'est des réseaux qui sont mis en place en Afrique et en Europe pour procéder, pour pouvoir attribuer des statuts ou alors des papiers à certains Africains contre, je dis bien contre, des déclarations généralement extrêmement fausses. Vous trouverez dedans des montages vidéo, des montages photos, des articles de presse qui n'ont rien à voir avec la réalité concernant les attaques contre la privation des droits de l'homme, des attaques, des violations des droits de l'homme par des régimes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en fait, c'est des mécanismes mis en place par l'Occident, parce que si l'Occident aurait validé, si pour obtenir des papiers en Europe, on aurait plutôt parlé de la situation économique et non politique. Je pense que beaucoup d'Africains qui s'y trouvent en ce moment, non seulement ne seront pas obligés de raconter des mensonges sur les régimes aux affaires dans leur pays. Donc, Madame Ouédraogo, c'est donc ça l'un des c'est donc un problème qui relève davantage de la culture ou alors de la privation de l'accès à un rituel culturel qui pousse ses compatriotes, ses Camerounais, à avoir des réactions comme vous voyez là. Parce que ça, il faut savoir que le non-respect de ce culte des crânes, qui est un culte patrimonial très respecté, le non-respect de ce culte des crânes est, selon ceux qui le pratiquent, à l'origine soit des bénédictions, soit pire alors, des malédictions.
Où en est la coopération entre le Togo et l'Iran? Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Rissi, s'est entretenu mercredi par téléphone avec son homologue iranien, Mohamed Javad Zarif. Au menu des discussions, la coopération bilatérale, indique l'agence officielle iranienne IRNA. Deux accords avaient été signés en 2010 entre Lomé et Téhéran. Le premier concernant l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et le second portant sur l'autorisation de prospection accordée aux entreprises iraniennes dans le secteur minier. L'Iran a également financé la construction d'un bloc pédagogique à l'université de Dakara au nord du Togo. Le Cameroun et le Gabon désormais connectés par fibre optique. L'interconnexion des réseaux de transmission numérique entre le Cameroun et le Gabon permettra de développer l'économie numérique en réduisant la facture numérique et les coûts de communication dans les deux pays et dans la sous-région Afrique centrale. L'acte que nous avons posé aujourd'hui est une étape majeure de la coopération entre la République du Cameroun et la République gabonaise en matière d'interconnexion des réseaux de transmission à fibre optique. Il doit être salué à sa juste dimension, a déclaré le ministre d'État, ministre de la Communication et de l'Économie numérique de la République gabonaise, Edgar Anissé Bumbour Miyakou. La province du Lualaba que dirige Fifi Massoukou Tseni, gouverneur intérimaire, a répondu favorablement à l'appel de solidarité pour les sinistrés de Goma. En séjour à Kinshasa, l'autorité provinciale du Lualaba est venue remettre une enveloppe de 340 000 dollars, un lot de plus de 10 000 pagnes, des tonnes de médicaments ainsi que d'autres biens au bénéfice de la population victime de l'éruption volcanique de Enyaragongo à Goma dans la province du Nord Kivu. Ces fonds et biens collectés ont été présentés au Premier ministre le mardi 20 juillet par la gouverneur ad intérim Fifi Masuka. En 2022, le Cameroun va ajouter 200 000 tonnes à sa production annuelle de GNL, comme prévu dans le contrat qui les lie et les parties engagées dans la production de gaz naturel liquéfié dans les eaux de Kribi au Cameroun se sont mises d'accord pour augmenter la production 3 ans après son coup d'envoi. Au Cameroun, le producteur de GNL, Golar, et ses partenaires ont annoncé qu'en 2022, ils accroîtront la production de l'usine flottante de production de gaz naturel liquéfié. Celle-ci passera de 1,2 million à 1,4 million de tonnes par an.